Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je vais évoquer pour vous l'auteur méconnu d'un naufrage pourtant au moins aussi fameux que celui du Titanic. Le vicomte Hugues Duroy de Chaumaret, capitaine de la frégate La Méduse, beaucoup moins célèbre que le radeau du même nom, il a vraiment été refoulé aux oubliettes de l'histoire. Non seulement son nom ne dit plus rien à personne, mais il est très difficile, voire impossible, de trouver un portrait de lui. Sur Internet, si l'on saisit Chaumaret sur un moteur de recherche d'images, on tombe immédiatement sur la toile de Géricault, ou bien alors sur une reproduction du radeau réalisé par l'un des survivants du naufrage. Mais Chaumaret, lui, n'existe plus. Il se confond avec le désastre dont il fut responsable. Il a disparu, comme dissous, aspiré par l'œuvre de Géricault. Dans ce nouvel épisode en deux parties, je vous propose donc d'extirper ce triste sire de sa gangue de peinture. Alors qu'après la Révolution, il était quasiment impossible de trouver des officiers de marine expérimentés, la grande majorité d'entre eux ayant quitté la France pour sauver leur tête, la marine française va devoir faire face à partir de 1815 à un afflux important et soudain de main-d'œuvre émigrée. Avec la Restauration et la prise du pouvoir par le roi Louis XVIII, ces officiers issus de la noblesse reviennent en France et réclament des commandements. En vertu d'un décret royal, tous vont être réintégrés dans le grade supérieur à celui qu'ils avaient en partant. On imagine l'effet produit sur les officiers plus jeunes et plus compétents, évincés au bénéfice de ces rentrants quinquagénaires dont la plupart n'a plus mis le pied sur un bateau depuis au moins 25 ans. Tout le drame du radeau de la Méduse est là. Le vicomte Duroy de Chaumaret, né en 1763, mort en 1841, est en effet l'un de ses officiers. Alors que la dernière embarcation qu'il a pilotée est la chaloupe sur laquelle il a gagné l'Angleterre en 1790, on lui confie le commandement de l'un des fleurons de la flotte française, la frégate La Méduse. Il doit diriger l'expédition chargée d'aller reprendre possession du Sénégal, rendue à la France par l'Angleterre à la suite des traités des 30 mai 1814 et 20 novembre 1815. À quel titre le désigne-t-on, lui, plutôt que tout autre incapable du même tonneau? Eh bien parce qu'à cette époque, il jouit encore d'une réputation de héros, ayant participé 20 ans auparavant, le 27 juin 1795, au débarquement royaliste raté de Quiberon, qui fit près de 800 morts.
Le vicomte de Chaumaret, ayant réchappé au massacre de Quiberon, est promu de plein droit au grade de capitaine de frégate.
Ainsi donc, c'est à sa survie en terrain hostile que Chaumaret devait à présent son brevet de commandant. Ce héros, sur le retour, est par ailleurs un pistonné et un menteur. Un pistonné parce qu'il n'aurait jamais obtenu un commandement aussi prestigieux sans l'intervention de son oncle, l'amiral d'Orvilliers, ami du comte d'Artois, frère du roi. Et un menteur, parce qu'il se rajeunit d'un an pour ne pas tomber sous le coup de l'interdiction de commander un bâtiment qui frappe alors les officiers de plus de 50 ans. Et en fait, il a alors 51 ans. Résumons-nous. Nous avons donc ici un marin d'eau douce blanchi sous le harnais, n'ayant pas commandé de navire depuis 25 ans, pistonné par son tonton et mentant sur son âge. Voici les éléments réunis pour courir à la catastrophe. Et de fait, le voyage à Dakar, qui aurait dû être une simple formalité d'une quinzaine de jours tout au plus, va tourner à la tragédie absolue, un drame dont tout le monde connaît au moins certaines des péripéties gastronomiques. Mais plutôt que de nous attarder sur l'art d'accommoder les restes assimilés à contre-cœur par les infortunés passagers du radeau, nous nous concentrerons ici sur les bourdes à répétition de notre amiral de bateau-lavoir. En plus de la Méduse, l'expédition dirigée par Chaumaret se compose de 3 bâtiments qui voyageront de concert. La flûte La Loire, la corvette L'Écho et le brick L'Argus. Le 17 juin 1815, le convoi quitte l'île d'Aix. À bord de la Méduse embarquent 395 personnes, marins, soldats et futurs colons, mais aussi le futur gouverneur du Sénégal, le colonel Julien Schmalz, voyageant avec son épouse et sa fille. Le voyage s'annonce comme une vraie promenade de santé. On prend l'air sur le pont, on parle météo. En passant au large de Tenerife, l'un des passagers s'engage dans des considérations sur la bataille de Trafalgar, expliquant doctement que si l'amiral Villeneuve n'avait pas trahi, la flotte française aurait remporté haut la main la bataille. Mais l'atmosphère à bord va se dégrader très rapidement et pour cause. Chaumaret ne sait pas faire le point, ne contrôle pas les caps. Il semble avoir tout oublié de la navigation. Pire même, selon l'auteur de La Malédiction de la Méduse, Éric Emtaz, non seulement Chaumaret a oublié le nom des voiles, mais il est alcoolique et boit du matin au soir. Poursuivant dans cette même veine nuancée, Emtaz qualifie d'ailleurs le commandant de la Méduse de « baderne gonflé d'orgueil et de vinasse ». Les incidents se multiplient. Un mousse tombe à la mer et se noie, malgré les efforts de l'équipage pour le récupérer. Puis Chaumaret refuse, lors d'une escale à Tenerife, d'embarquer 6 malheureux prisonniers français, aussi désespérés que décharnés, retenus ici depuis 8 ans. Bref, l'ambiance se gâte. D'autant que pour couronner le tout, Chaumaret entretient des relations exécrables avec ses subordonnés qu'il méprise et dont il n'écoute jamais les conseils. Il accorde davantage de crédit à l'avis des passagers qui n'y connaissent rien qu'à ses seconds qui sont des marins chevronnés. La tension monte, notamment avec les lieutenants Espiot et Reynaud qui détestent Chaumaret et entretiennent à bord un laxisme généralisé. Bientôt, la division, c'est ainsi que l'on désigne un convoi de plusieurs bâtiments, approche de l'Afrique. À bord, certains ont déjà fait ce voyage et encouragent leur commandant à éviter de longer les côtes où les courants sont dangereux. Les récifs et les bancs de sable à éviter sont nombreux. Il faut prendre plus au large, une route à la fois plus longue, bien sûr, mais moins périlleuse. Rien à faire. Chaumaret ne veut pas en entendre parler. Comme l'armateur du Titanic un siècle plus tard, il veut arriver le plus vite possible et donc couper au plus court. Alors que lorsque l'on progresse en division, on doit s'aligner sur le bateau le plus lent, lui file devant, distancié et perd bientôt de vue les autres bâtiments. Une décision qu'il regrettera bientôt amèrement. Alors qu'il est convaincu d'avoir magistralement évité le banc d'Arguin, immense banc de sable au large de la Mauritanie, il met le cap droit dessus. C'est un tel entêté que même lorsqu'il paraîtra évident à tout le monde que l'on navigue à présent sur des hauts fonds, il ne changera pas de cap. Autant courir vers un gouffre les yeux bandés. Chaumaret aurait-il pu éviter le banc d'Arguin sur lequel il échoue la Méduse ? Oui, répond dans ses mémoires Coréa, rescapé du radeau. Le capitaine avait reçu une dépêche lui indiquant de ne pas trop se fier aux cartes marines sur lesquelles le banc d'Arguin était très mal placé. De plus, il y avait à bord des personnes qui avaient déjà fait ce voyage et l'ont alerté en pure perte. Oui, selon Éric Emtaz, rappelant dans son livre que le banc était indiqué sur les cartes marines comme une zone à éviter. Impossible, note enfin Jean-Yves Bloch, auteur de La Méduse, chronique d'un naufrage ordinaire.
Car la seule carte sous-marine dont dispose alors Chaumaret est la carte Belin, qui donne des indications erronées, ce qui va provoquer l'échouage de la Méduse.
En tout état de cause, cela ne change pas grand-chose à l'affaire, puisqu'au moment de la manœuvre cruciale qui doit permettre d'éviter le banc en question, Chaumaret dort. Un raclement épouvantable. C'en est fait. Au soir du 2 juillet 1816, la Méduse est échouée. Par son obstination, son aveuglement, son refus d'écouter les autres, Chaumaret vient de réussir le prodige de s'échouer à marée haute par un temps radieux et une mer d'huile. Pendant les trois jours qui suivent, il multiplie les manœuvres ineptes, s'agite en pure perte. Un exemple, pour essayer de remettre la frégate à flot, on jette tout ce que l'on peut par-dessus le bord, mais on ne touche pas au canon, ce que Chaumaret considérerait comme un crime de lèse-majesté. Encore beaucoup trop lourd, le bateau n'a aucune chance d'être renfloué. Le mauvais temps se met alors de la partie et une grosse lame provoque une large brèche dans la cale. Échouée sur un banc de sable, la méduse ne peut pas couler, mais elle est perdue. L'évacuation s'organise. Les différents canots, yachts, les chaloupes, 6 en tout, n'offrent que 250 places pour 395 personnes à bord. 233 privilégiés emprunteront ces embarcations où ils se tiendront assis et bien au sec, tandis que les autres s'empileront sur le radeau construit à partir de la mâture de la méduse. Les chaloupes remorqueront le radeau jusqu'à la côte, qui n'est qu'à 150 km et que l'on peut même voir par temps clair. Lorsque le convoi de fortune est prêt, Chaumaret, contre les lois les plus sacrées de la marine, embarque dans les premiers sur une chaloupe, sous les huées des marins restés à bord qui, rendus furieux par cette trahison de leur commandant, s'emparent de fusils et le mettent en joue.
La loi de l'honneur prescrit au commandant d'un bâtiment naufragé de le quitter le dernier. Monsieur de Chaumaret manqua à cette obligation en s'embarquant dans un canot alors qu'il y avait encore une soixantaine d'hommes sur la frégate.
17 marins choisissent de rester à bord de la Méduse, dont 3 survivront, que l'on retrouvera hébétés et à moitié fous. Quant au célèbre radeau, le tableau de Géricault ne lui rend pas justice. Si les naufragés sont effrayants à souhait, plus morts que vifs, exsangues, la peau verdâtre et l'œil hagard, le radeau de Géricault est quant à lui vraiment moins réaliste, car tout juste assez grand pour contenir une poignée de rescapés. Or, le vrai radeau mesurait 20 mètres de long sur 7 mètres de large, soit 140 mètres carrés. Et oui, le radeau de la Méduse avait les dimensions d'un appartement de 5 pièces, assez vaste pour accueillir entre 149 et 147 personnes, selon les auteurs. À son bord, une unique femme, le chirurgien Savigny et le géographe Coréard, auteur du récit dont la publication déclenchera un énorme scandale en France. Les sacrifiés se tiennent debout, disposant chacun d'un mètre carré à peine. Sous leur poids, le radeau s'enfonce sous l'eau.
Au gré du ressac, l'eau arrive aux genoux ou à la ceinture, mais jamais plus bas,
précise Éric Amtaz. Lorsque l'on s'enfonce trop, on jette des tonneaux de biscuits. De toute façon, puisque l'on aperçoit la côte au loin, on devrait toucher terre avant de commencer à avoir faim et soif. Le radeau est tiré par 2 canots qui s'escriment à aller de l'avant, ne pouvant attendre aucune aide des passagers du radeau qui n'ont ni rame ni voile. À partir de ce moment-là, les témoignages divergent. Pour Savigny et Coréard, c'est indéniablement Chaumaret qui va rompre les amarres, la touline, qui reliait son canot au radeau, estimant que lui-même et ses passagers ne pourraient jamais s'en sortir en tirant ce poids mort derrière eux. Pour Éric Amtaz, c'est le gouverneur Schmalz qui va donner cet ordre monstrueux. Et enfin, pour l'historien Philippe Masson, il s'agit d'un accident que Chaumaret aurait vainement tenté de réparer. Que l'amarre ait été brisée par accident ou volontairement larguée ne fait qu'ajouter l'indignation au désespoir des passagers du radeau, condamnés désormais à dériver au gré des vagues. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit et raconté pour vous l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve demain pour la seconde partie de mon récit au cœur de l'histoire consacrée à Hugues du Roy de Chaumaret et au naufrage de la Méduse.